Oh shit, here we go again.
Tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille au deuxième épisode de la saison 6, épisode numéro 159 et surtout deuxième épisode d'urgence parce que nous allons parler de probablement la grosse nouvelle de cette année 2024 et je ne pense pas que ça va topé tout ce qui s'est passé aujourd'hui et même hier. Alors, pour en parler, j'accueille Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut à tous, très content d'être dans l'épisode d'urgence du balado.
Ah oui, écoute, je pense qu'on en a très hâte de parler parce que...
Oh oui. Tu disais que c'était la plus grosse nouvelle de l'année. C'est la plus grosse nouvelle des... 3, 4, 5 dernières années, depuis que Liberty Media a acheté la Formule 1, peut-être?
Ouais. Parce que.
Depuis peut-être le championnat du monde 2021, dans la façon dont ça s'est terminé?
Ouais, aussi.
Depuis là, visiblement, au niveau de l'actualité des réactions, là, mais au niveau de l'impact sur le sport.
Ouais.
C'est la plus grosse nouvelle depuis Liberty Media.
Ah oui, parce que, pour vous mettre en contexte, c'est que Alicia Keys, Pharrell Williams et Martin Garrix vont être en spectacle pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cet épisode spécial parce que c'est quand même gros. Et en plus, ça tombe un samedi. Alors, il fallait qu'on en parle. Mais, ça, on en parlera un jour ou peut-être jamais parce que.
Oui, on va parler au prix Grand Prix du premier de la saison dans quelques semaines, dans même pas 4 semaines.
Eh oui. Parce qu'il faut qu'on.
Donc, plus sérieusement, la vraie nouvelle, c'est quoi, Abdou, là?
C'est que Carlos Sainz quitte Ferrari.
Attends, tu m'appelles pour venir faire un épisode là-dessus? Non.
Ben oui, mais attends. Ben oui, mais c'est parce que c'est gros.
C'est quoi la nouvelle qui sous-tend alors? Pourquoi il s'en va alors?
Parce que Ferrari a trouvé son remplaçant.
Ah oui?
Ouais.
Qui? Nick DeVries?
Ouais, Nick DeVries. Parce que...
Le frère de Charles Leclerc?
Oui, Arthur, ben oui, il a roulé, il a fait ses premiers essais. Donc,
Ferrari, c'est une histoire de famille, hein, donc on va mettre aussi les deux ensemble.
Ouais, hein. Ouais, non, c'est ça, je pense que c'est Arthur Leclerc, mais quelqu'un m'a dit que ce serait Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton?
Ouais,
My God.
Apparemment, ça semble être confirmé. Attends, juste vérifier. Oh mon Dieu. Non!
He's going.
C'est confirmé. Oh non! My God. OK, on va arrêter le cinéma, là.
Oui. La nouvelle est spectaculaire.
Elle est spectaculaire. On va se le dire. Elle est spectaculaire.
On va se le dire. C'est deux univers qui se rencontrent entre les ferraristes et Team LH.
Ouais.
Je veux même pas imaginer à quoi ça peut ressembler un combo comme celui-là.
Qui aurait cru que ce moment allait arriver? Parce que après des années de rumeurs, tu sais, comme un peu les fameuses rumeurs sur un Grand Prix de Londres qui arrive année après année, ben je pense que les rumeurs de Hamilton chez Ferrari, c'est quelque chose qui se ressortait année après année. Mais ce jeudi 1er février 2024 est le moment où tout a basculé. Vraiment.
Si ça avait été le 1er avril, on n'y aurait pas cru.
C'est ça. Si c'était à ce moment-là, oui, là, on aurait eu encore des doutes. Ou bien même le 28 décembre avec le poisson d'avril espagnol.
Ah aussi. Oui, du Grand Prix à Madrid, oui.
Oui, exact. Donc, t'imagines...
Non, mais là, Lewis Hamilton qui s'en va chez Ferrari quand même.
Ouais.
C'est 11 ans de collaboration avec l'équipe, la structure Mercedes à Brackley. Là, en fait, on sait que Lewis, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est avec Mercedes. Il est là depuis l'âge de 13 ans, à peu près. Mm-hmm. Mais là, il va quitter Brackley au terme de l'année 2024. Donc, c'est pas l'année prochaine, là, c'est pas l'année 2024, c'est 2025. Là. Il termine son contrat, puis après, il s'en va chez Ferrari pour une durée indéterminée, à tout moins 3 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, apparemment, ce serait 2 ans déjà coulés sur le, plus l'année d'option.
Avec un contrat XXL au niveau finance, on ne s'en doute même pas. Là.
Ouais.
Mais donc, il s'en va au moins 2 ans chez Ferrari avec Charles Leclerc, qui lui aussi a un contrat 2 ans avec une option, 3 ans même avec une option. Donc, on vient de faire, en ce jour de Decision Day, partout à travers le monde, sur la planète soccer, Lewis Hamilton s'en va chez Ferrari.
Ah ouais. Et
on vient de bloquer Ferrari. Là. Donc, ça, c'est. La saison folle est déjà bien bloquée. Là.
Ah oui, et elle est déjà commencée même parce que maintenant il y a tellement de candidats, puis on en reparlera un peu plus tard.
Oui, qui va prendre le deuxième baquet chez Mercedes? Il y a du choix là.
Eh oui.
Carlos Sainz est un candidat très potable.
Eh oui, puis il y en a plusieurs autres aussi, donc ça aussi c'est quelque chose qui va vraiment, mais vraiment causer un genre de chaise
musicale. Est-ce que Lando Norris a signé trop vite? Plein de questions comme ça, on va pouvoir lancer dans les prochaines semaines.
Ouais, mais moi je pense qu'il est bien avec McLaren.
Oui.
Je pense qu'il
est signé trop vite. Oh. Est-ce qu'il aurait pu faire la surenchère?
Ah, il aurait pu, ouais. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait pu, mais c'est quelque chose qui était inattendu de la part de tout le monde. Donc,
est-ce quelque chose, ben, c'est comme tu l'as dit, on s'y attendait pas.
C'est ça. Donc,
on plonge dans le sujet quand même, on explique Lewis Hamilton.
Oui. Donc, oui. Ouais, donc c'est un coup de tonnerre, c'est un énorme coup de circuit. Donc Hamilton ira chez Ferrari pour 2025, possiblement 2 ans déjà coulés dans le béton plus une année d'option.
Il 2025, 2026, option pour 2027, ce qui va l'amener à minimum 42 ans.
Exactement. Donc et en plus, il va être coéquipier de Charles Leclerc qui a lui aussi signé un contrat XXL en matière d'années. On ne sait pas encore combien d'années, mais c'est déjà probable, peut-être plus que 3 ans. C'est indéterminé. Mais ce qui fait en sorte que, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, c'est la fin d'un partenariat avec Mercedes qui date de 1998 parce que, évidemment, comme Mercedes n'était pas en Formule 1 comme écurie, il était un fournisseur de moteurs avec McLaren.
Oui.
Donc, et quand il a quitté McLaren à la fin de la saison 2012, il est allé avec Mercedes jusqu'à la fin 2024. Donc,
une excellente collaboration alors avec Mercedes.
Une excellente collaboration. Donc, ces 103 victoires en Formule 1 l'ont été avec un moteur Mercedes. Et en plus de ça, ben, Hamilton a dit que dans un communiqué de presse, et je cite, « J'ai passé 11 années extraordinaires avec cette écurie et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. » Mercedes fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. C'est un endroit où j'ai grandi et c'est pourquoi prendre la décision de partir a été l'une des plus difficiles que j'ai eu à prendre. Mais le temps est venu pour moi de franchir une étape et je suis ravi de relever un nouveau défi. Je serai éternellement reconnaissant du soutien incroyable de ma famille Mercedes, en particulier de Toto Wolff pour son amitié et son leadership, et je veux finir en beauté avec eux. Je suis à 100% investi pour réaliser les meilleures performances possibles cette saison et à faire ma dernière saison avec les flashs d'argent. Une année mémorable. Donc, Jean-Sébastien, ta réaction face à cette signature de Lewis Hamilton, est-ce que... Bon, c'est sûr, on va se mettre dans le futur, mais est-ce que c'est une très bonne association entre le pilote le plus titré et avec Michael Schumacher, le plus victorieux en Formule 1, avec l'écurie la plus titrée de l'histoire du championnat du monde de Formule 1? Est-ce que c'est un deal qui est parfait?
Lewis a toujours rêvé de conduire une Ferrari. On se rappelle, l'année passée ou l'année d'avant, il l'avait dit encore.
Mm-hmm.
Où je pensais que c'était conduire une Ferrari de une voiture sport, mais jusqu'à une voiture Formule 1, Formule 1. Je trouvais que l'association me semblait un peu stretchée dans la mesure où il a toujours été associé à Mercedes. Mm-hmm. À partir de là, je pense que oui. Ferrari, c'est historiquement la plus grande équipe de Formule 1. Elle a un lustre qu'aucune autre équipe a, je pense. Elle a une base de fans et tifosi qui sont indécrottables. Essayer de trouver des fans plus crinqués qu'eux, je pense qu'il y en existe juste un groupe et c'est Team LH. Mm-hmm. Et donc là, ces deux groupes vont s'unir ensemble. Marc-André, dans notre groupe de chat, a dit « Ça va être l'enfer, les fans de Ferrari. » À Montréal, la prochaine fois que Lewis va être là à Montréal sous Ferrari, clairement, mais ça va être comme ça partout, parce que là, ça va être ces deux groupes-là qui sont bruyants, qui sont partout, et là, ils vont être ensemble sous une même couleur, ça va être très rouge partout. On a les époques Michael Schumacher chez Ferrari, là. On est dans une association qui relève d'un mythe, là, entre une équipe sportive et un individu. Il y a des choses comme ça qui dépassent un peu, là. C'est Messi, au Barcelone, c'est Ronaldo Madrid. C'est Beckham chez Manchester United. C'est des choses comme ça. Là. On est sur des associations qui sont qui dépassent le sport. Là. C'est mythique. C'est complètement fou braque. Là. On vit vraiment sur une autre planète.
Exactement. Et d'ailleurs, parlant de Marc-André, comme il ne peut être présent aujourd'hui, il nous a envoyé un petit message pour avoir son impression. Donc, je vous le fais écouter maintenant.
Salut tout le monde. Je ne peux pas être présent ce soir, mais Abdou m'a laissé la chance de pouvoir vous donner mes impressions sur cette signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Premièrement, je pense que pour comme pas mal tout le monde, ça a été une surprise. Hier, entre équipes, on riait un peu, ou du moins, on se demandait bien ce que Will Buxton voulait annoncer ou quelle nouvelle il allait annoncer. Puis finalement, je pense que c'est vraiment pas trompé. C'était aussi majeur qu'il voulait le laisser présager. Lewis Hamilton chez Ferrari, pour moi, c'est une manière, je pense, de... Je pense que Lewis Hamilton pense pouvoir relancer Ferrari. Je pense qu'il pense réussir à relancer cette écurie qui ne va nulle part depuis des années. Et j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être réussir à le faire. D'un côté, il n'y a rien à perdre. D'un côté, il y a juste lui à... Tu sais, je pense qu'il l'a toujours mentionné, hein, il voulait être avec Ferrari, même s'il ne l'a jamais dit clairement. Que le champion, le plus grand pilote du monde termine sa carrière potentielle avec Ferrari, je pense que ça a une image très importante. Maintenant, est-ce que Ferrari pourra se relancer sous les couleurs de Lewis Hamilton? J'ai toujours un certain doute, je l'ai mentionné sur Twitter, j'ai l'impression que c'est peut-être un épée dans l'eau. Avec toutes les problématiques que Ferrari peut avoir, je me demande si tout d'un coup, en claquant des doigts, Lewis Hamilton puis arrive puis toute cette énergie-là est changée. Quel accueil Charles Leclerc va avoir pour Lewis Hamilton, ça aussi c'est une question intéressante. Je pense qu'il va très bien l'accueillir. Il l'a mentionné durant la saison. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il peut-être qu'il présageait ou peut-être qu'il se demandait si ça allait arriver. Mais je pense qu'il y a du bon dans cette signature. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de positifs pour la F1. C'est un second souffle pour la Formule 1, alors que je pense qu'il commençait peut-être à perdre certains adeptes en raison de la domination de Max Verstappen dans les dernières années. Surtout les nouveaux fans Netflix, ben là, je pense qu'ils vont réussir à aller les gagner. Et en terminant, quoi de mieux pour la FOM qu'une nouvelle majeure comme ça pour enterrer l'histoire Andretti? Je pense que la FOM doit se laver les mains aujourd'hui en ce sens. Donc, on verra en 2025. Moi, je l'ai mentionné à des amis, les tifosi vont être intenses à Montréal dans 2 ans. Peut-être même un petit peu lourd, mais non, sans blague. Je vous aime les tifosi, puis on se revoit à Montréal très bientôt.
Donc, merci beaucoup, Marc-André. Maintenant, on a encaissé ce choc. Je pense qu'on a été plusieurs à actualiser nos fils X. Twitter, bon, je vais quand même l'appeler.
Twitter. Twitter. On va dire, nous, on va encore dire Twitter.
Ouais, on va encore dire Twitter. Mais il faut qu'on il faut qu'on sache comment ça s'est produit. Et je suis, et il y a un article de Lawrence Barreto sur le site officiel de la Formule 1 qui explique comment la signature de Hamilton avec Ferrari s'est produite. Je vais citer quelques extraits. D'abord, le premier. On part du printemps dernier. Des sources ont dit que Lewis Hamilton a reçu un appel du propriétaire de Ferrari, John Elkann. Et c'était complètement inattendu parce que Ferrari a déjà appelé Hamilton, mais ce dernier connaissait vraiment Elkann très bien. Ils sont devenus de très bons amis. Et Elkann avait fait des pieds et des mains pour obtenir Hamilton à court et à moyen terme. Apparemment, c'était probablement pour 2024, mais je pense que Hamilton n'était pas prêt de tirer sa révérence. Et l'équipe de Hamilton avait déjà considéré, comme ça a été mentionné, un transfert chez Ferrari, mais ils ont décidé de rester avec Mercedes. Donc, c'était plutôt informel avec quelques textos, quelques appels et tout ça. Bon, il faut aussi mettre en contexte que à la fin du mois d'août, Hamilton avait signé un contrat de 2 ans, donc 2024 et 2025, avec Mercedes, en même temps que George Russell. Donc, ce qui me laisse à dire que potentiellement le contrat, c'était pas 2 ans coulés dans le béton, mais 2024 plus 2025 comme année d'option. Je pense que ça ressemble à ça. Donc, là, il y a eu, je pense, la fin de saison qui a été un peu plus difficile pour Hamilton. Il y a eu la disqualification au Grand Prix des États-Unis, l'accrochage au Qatar avec George Russell, qui l'a avoué que c'était sa faute, des contre-performances purement en termes de performance, entre autres lors du Grand Prix d'Abu Dhabi où il a fini 9e. Donc, ça a été un peu plus difficile la fin de saison pour Hamilton, alors qu'il avait la chance de finir 2e au championnat des pilotes. Donc, Jean-Sébastien, de tout ce que j'ai mentionné dans des extraits de l'article de Lawrence Barreto, tu en penses quoi?
C'est intéressant, on voit qu'il y a un changement de logique parce que c'est le boss de Ferrari Automobile, pas l'équipe de Formule 1 qui fait la démarche. Mm-hmm. C'est intéressant cette partie-là. Donc, il y a une volonté de vouloir faire des choses différentes. Sans doute que l'arrivée de Fred Vasseur, qui ne parle pas encore italien, qui ne le parle pas, parce que quand il se fait interviewer sur Sky Sport Italia, il parle en anglais, puis il se fait traduire automatiquement par une voix off, par un traducteur qui est dans un studio. Donc, Ferrari accepte le fait qu'on retourne un peu en arrière, comme avec l'époque de Jean Todt, sauf que Jean Todt a appris l'italien. Peut-être que dans l'entre-saison, peut-être que Fred a pu améliorer sur son italien. Maintenant, il est assez sur ses assises pour pouvoir le faire. Mais quand même, on sent qu'il y a un changement de structure, que Ferrari veut revenir en avant. Il ne faut pas oublier que la dernière fois que Ferrari a gagné un championnat de pilote, Kimi Räikkönen, en 2007. Ça fait 16 ans. Et la plus longue disette, c'était entre 79 et 2021 ans, Jody Scheckter et Michael Schumacher. Donc, on s'approche de cette disette-là et on commence à crier un peu, là. On s'inquiète. Donc, un changement opérationnel qui s'est fait en 2 temps avec l'arrivée de cet Américain comme directeur, comme patron de l'entité Ferrari, comme de l'entreprise. Puis l'arrivée du français de Frédéric Vasseur, où on délaisse la filière italienne, Maurizio Arriva Bene et des autres qui ont pu diriger sportivement Ferrari, l'équipe de Formule 1. Cette perspective-là est assez intéressante. Je pense qu'elle apporte beaucoup de choses. On l'a vu dans la première moitié de saison où la saison de Ferrari était assez difficile, alors que la deuxième moitié était bien meilleure. On a corrigé beaucoup de choses, notamment l'idée des stratégies. Je pense qu'il y a du Fred Vasseur là-dedans. Je pense qu'il y a eu un changement opérationnel. Et là, de faire un rapprochement une deuxième fois pour voir tenter l'intérêt de Lewis Hamilton et de voir qu'on peut entamer des discussions, puis on peut aller plus loin et qu'il y a une possibilité de signer un an d'avance et de pouvoir faire le changement, ça en dit long sur la stratégie à long terme de Ferrari. Parce que Lewis Hamilton ne va pas se pointer chez Ferrari juste pour faire deux saisons. Il va sans doute en faire trois. Et on sait que Lewis Hamilton, en fait, on sait que Toto Wolff nous avait dit que Lewis Hamilton a encore au moins 5 bonnes années dans le corps. Au moins 5 bonnes années. Donc, ce contrat chez Ferrari, c'est 2 plus 1, mais il y a sans doute un autre plus aussi qui va suivre.
Ouais. Et en plus, tu parlais de Fred Vasseur, mais ce n'est pas comme il ne connaissait pas Lewis Hamilton. Ils se connaissent parce que Hamilton a roulé dans les catégories juniors avec Art GP, l'équipe cofondée par Fred Vasseur.
Oui.
Et surtout, c'est avec cette équipe qu'Hamilton a remporté le championnat de GP2 en 2006 avant d'aller chez, oui, McLaren. Donc, Hamilton et Vasseur se connaissent bien et ils ont gardé encore de très bons contacts. Donc, peut-être que, outre... Les conversations continuent avec Elkin. Il y a peut-être Vasseur qui sait...
C'est une construction sur le long terme. On sent, dans ce cas-là, Abdou, je m'excuse de te couper.
Oui, vas-y.
On sent la stratégie qui s'inscrit dans le long terme. On va aller chercher un nouveau directeur pour essayer d'attirer Lewis Hamilton. Parce que si on avait déjà fait de conversation préalable, il nous faut quelque chose pour l'attirer. Dans le cas chez Mercedes, c'était Pete Bonington. Bono, qui est un excellent ingénieur, je ne pense pas qu'il va le suivre. Est-ce qu'un Jock Clear pourrait suivre?
Ah!
Jock Clear connaît Ferrari.
Oui.
Il connaît très bien Ferrari.
Et il est encore avec Ferrari, je crois.
Oui. Donc, il connaît bien la structure. Mm-hmm. Il aime bien la structure. Il connaît aussi un peu Lewis Hamilton quand même.
Oui, aussi.
Entre Britanniques qui se connaissent un peu, se sont déjà rencontrés à plusieurs occasions. Une connexion qui est assez intéressante ici. Une filière anglaise qui se développe. On ouvre beaucoup plus la filière internationale. Lewis Hamilton, là, il va pas parler italien. Il va pas apprendre la langue.
Même pas avec Duolingo?
Ça se fait. J'en suis une preuve.
Eh oui.
Mais il va sans doute apprendre une base, comme Sébastien Vettel le fait, mais Kimi Räikkönen ne l'a jamais fait.
Ouais.
Sauf que lui, il a remporté un championnat, donc tout lui est pardonné. Mais dans le cas de Lewis Hamilton, c'est une machine de marketing. Il va vendre du merch comme c'est pas permis. L'équipe va faire énormément d'argent. C'est très intéressant sportivement. Il va sans doute relancer l'équipe. Il va dynamiser l'équipe. Il va apporter beaucoup de choses dans l'équipe. C'est ça qui est intéressant parce que Charles Leclerc ne peut pas porter l'équipe lui seul. Il est bon, Charles Leclerc, mais c'est une structure Ferrari qui est très complexe et il faut plus de poids que Carlos Sainz. En tout respect.
Ouais, et on reparlera justement de Carlos Sainz un peu
plus tard. Mais n'empêche, toutes les démarches qui ont été faites par Ferrari au cours des deux dernières années avec les changements qui ont été faits, notamment Fred Vasseur, ça commence à payer très sérieusement. Je ne pense pas Oui, voilà. Il ne faut pas sous-estimer Ferrari à partir de maintenant.
Ouais. Et en plus, juste avant que je parle de l'autre point dans l'article, tu m'avais envoyé en privé deux messages concernant justement l'aspect économique de l'arrivée de Lewis Hamilton.
C'est ça. Il faut regarder extra-sportivement aussi l'arrivée de Lewis Hamilton. Ce matin, lorsqu'on a eu aux aurores les premières informations que Lewis Hamilton quitterait Mercedes pour aller chez Ferrari, on a commencé vite à évoquer, il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe en bourse. Et on a vu qu'à la bourse du Nasdaq à New York, Ferrari est en hausse. Ferrari a fermé la journée finalement avec une hausse de 12% et demi environ, un peu plus que 12% en fait, ce qui représente pour Ferrari depuis son entrée en bourse au Nasdaq leur meilleure journée à vie. Donc, 12,5%, c'est une capitalisation boursière additionnelle de 8 milliards de dollars US.
C'est beaucoup d'argent, ça.
C'est beaucoup d'argent. Et déjà, Ferrari était déjà dans un cycle très positif avec. Ils avaient notamment atteint un pic plutôt au mois de janvier. Là, ils viennent d'atteindre le nouveau. Et je peux sans doute vous prédire que cette cote-là va continuer à monter alors que Lewis Hamilton va s'approcher, qu'il va y avoir des campagnes de publicité que Lewis Hamilton va faire parce que Lewis Hamilton va en vendre des voitures aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout. Il est reconnu, c'est une star. Il va attirer un nouveau public également pour le Javel Cabré. il a du bagou, ça va bien se faire ces publicités-là, ça va se vendre Ferrari.
Et c'est une meilleure phase de marketing que le film sur Enzo Ferrari aussi.
Oui.
Ouais.
Donc, dire le contraire.
Ça, c'est pas difficile. Mais pour revenir à l'aspect sportif, il y a aussi le plan parce que Hamilton va signer pour 2025, mais surtout 2026, ça va être l'année de la nouvelle réglementation des moteurs. Et Ferrari, bon, toujours en se fiant à l'article de F1.com, ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin pour avoir un très bon moteur. Donc, ils se préparent pour 2026 et ils savent ce que ça a donné avec Hamilton quand il est passé de McLaren à Mercedes. En 2013, bon, c'était pas la meilleure saison, c'était une bonne année, mais Hamilton est quand même parvenu à obtenir des pôles et une victoire en Hongrie. Et oui, de 2014 jusqu'à 2021, à l'exception de 2016 et 2021, Hamilton a remporté le championnat des pilotes, mais a toujours été dans la course au titre.
Oui. L'avantage pour Ferrari, c'est que au moment où ils vont accueillir Lewis Hamilton au terme de la saison 2024, Ferrari est dans une meilleure posture que l'était Mercedes en 2011.
Mmh.
C'est une voiture qui n'était pas si facile. Ils étaient plus milieu de plateau et non pas en position de gagner des courses comme ils l'ont fait cette année ou en faire des podiums. Là. C'était quand même Ferrari, ils ont fini. En quelle position ils ont fini encore constructeur cette année? Troisième.
Je pense que c'était deux. Deuxième ou trois.
Deux ou trois.
Je vais aller te dire ça tout de suite, mais j'ai l'impression que c'était.
Mais n'empêche, ils ont fini sur le podium alors que en 2011, c'était pas le même niveau. Là. Donc, il faut aller chercher. Il y a quand même la grosse troisième, hein? Troisième, parce que c'est Mercedes qui a fini deuxième. Mais n'empêche, le point est que cette voiture-là est en meilleure posture que ne l'était Mercedes à l'époque. La difficulté, c'est que la marge entre la troisième et la première est gigantesque parce que la marge entre la première et la deuxième est abyssale.
Ouais. Merci Red Bull.
Merci Red Bull. Mais n'empêche, il y a une marge de progression qui est présente. On a vu la marge de progression chez Ferrari cette année qui est passée, où on les réutilisait sur leur stratégie, alors qu'en deuxième moitié de saison, c'était beaucoup mieux. En fait, même très bien, parce qu'ils ont même pu gagner un Grand Prix à Singapour, alors que, en fait, c'est le seul qu'une autre équipe qui n'était pas Red Bull. Donc, ça prouve que cette voiture-là est bonne, était régulièrement sur le podium. Il y a eu beaucoup de malchance de la part des deux pilotes, non pas nécessairement de la fiabilité, mais il manquait des choses, il y avait vraiment de la faute à pas de chance. Alors que chez les autres équipes, c'était notamment Mercedes, c'était un peu plus régulier. Donc, si on arrive à corriger ça, ouais, Ferrari, là, 2025, ça peut être dangereux.
Ouais.
La concurrence va venir de là. Peut-être aussi de McLaren, mais Ferrari va être. Ça va être chaud boulette.
Oui, et écoute, cette année aussi, ça va être. Tout dépendamment de comment Ferrari va bâtir sur la deuxième partie de la saison où ils ont très bien fait. Moi, je me demande aussi, est-ce qu'il y a aussi un petit désaveu de la part de Hamilton concernant Mercedes pour dire, moi, je vais aller chercher un huitième championnat des pilotes avant de tirer ma révérence. Et de ce que je vois, ce n'est peut-être pas Mercedes qui va m'offrir cette chance. Parce que, je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais il y en a qui disent que peut-être quand Mercedes n'est pas allé célébrer la deuxième place de Hamilton à Singapour et tout ça, je ne sais pas à quel point c'est sérieux ou bien c'est juste du vent, là, mais.
Je vais le comparer à quelque chose d'autre.
Oui.
Quand Tom Brady est parti jouer pour les Buccaneers de Tampa Bay,
mm-hmm.
tu allais chercher un autre défi.
Oui.
C'est peut-être ça aussi, Lewis Hamilton. Quand ça fait 12 ans que tu es dans la même équipe, 12 ans dans la même équipe, qui a fait 12 ans dans une même équipe?
Oui.
Personne.
C'est rare.
Il y a des pilotes qui ne font même pas 3 saisons en Formule 1.
Exactement.
Dans deux équipes. Lui en fait 12 dans une seule et même équipe.
Exact.
Il a besoin de quelque chose d'autre. Puis ça se comprend.
Et la comparaison avec Tom Brady est bonne aussi. Et il a réussi avec les Buccaneers.
Est-ce que Lewis Hamilton peut réussir ailleurs? Oui, il l'a fait avec McLaren, il a gagné un championnat, puis après il est parti chez Mercedes. La pression va être énorme chez Ferrari, parce que tu imagines si Lewis Hamilton ne gagne pas un championnat. Ferrari aurait été la seule équipe à ne pas faire gagner Lewis Hamilton. Mais en même temps, la pression va être énorme sur Lewis Hamilton.
Ouais.
Parce que lui aussi va se dire, j'ai pas pu gagner avec cette équipe. C'est une partie de sa faute parce que c'est lui qui conduit la voiture. Tu sais, c'est 50-50 au final.
Ouais.
N'empêche, il est obligé de réussir.
C'est vrai.
C'est une pression de ma boule.
Et en Italie, ben, comme tu me l'avais dit ce matin.
Et ça, c'est ce que j'ai appris l'été dernier en Italie. C'est un peu comme avec le Canadien de Montréal ou n'importe quelle équipe de sport. On se dit, on renouvelle le poste de l'entraîneur-chef ou enfin du directeur sportif de l'équipe, dans ce cas-ci chez Ferrari, de dimanche en dimanche. Selon le résultat, c'est l'idée qu'on se donne un peu collectivement de est-ce qu'il vaut encore la peine. Ben oui, ben Fred Vasseur aussi, la pression est dingue. Hein?
Ouais.
Mais lui, il a l'avantage de ne pas être italien.
Exactement. Donc,
ou le défaut, c'est selon. C'est pas clair.
Ouais, exactement.
Moi, je pense qu'il y a un avantage pour lui.
Pour l'instant, et ça fonctionne bien parce que je pense que Vasseur a déjà, moi, je sais que c'est sa première saison avec Ferrari, mais...
Il a bien réussi pour une première saison.
Ouais, il me donne plus l'impression d'avoir les clés de la maison plutôt que Mattia Binotto.
Oui, mais regarde, encore une fois, ça va avec l'idéologie de l'entreprise Ferrari.
Ouais.
On semble vouloir donner plus de temps, on semble être plus permissif. Si ça avait été... Encore une fois, genre, Mattias Binotto, Maurizio Arriva Bene, la pression aurait été dingue. Avec Fred Vasseur, ça semble être plus détendu.
Mm-hmm.
On donne du temps.
Ouais.
Ce qu'on ne voyait pas il y a 2 ou 3 ans, le projet sportif, on peut le développer pour apprendre une expression soccer.
Exactement. Et je le vois en ce moment avec mes deux équipes préférées.
Liverpool et?
Le CF Montréal.
Oui, c'est vrai, c'est mon
ouais.
Celui-là.
Ouais.
Une va très bien, l'autre est.
Ben écoute.
Les biens se vendent au moins.
Ouais, les biens se vendent, mais je pense que je peux relater avec le fait que. Et le pire, désolé pour la petite parenthèse. Pour moi, Hamilton, j'ai l'impression. Vous allez me traiter de fou, et avec raison, mais j'ai l'impression que je revois. Jürgen Klopp annoncer son départ de Liverpool.
T'es... Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui dépasse un peu le zeitgeist. Hein?
Ouais. C'est genre... On sait que ça va arriver, mais tu sais pas à quel moment ça va se produire.
Oui, c'est ça. Il y a un peu... J'essaie de réfléchir à cet après-midi à c'est quoi un gros événement. Tom Brady m'est venu sur le coup en te le disant tout à l'heure. Je me disais, est-ce qu'un Wayne Gretzky qui part de... parce que je me rappelle enfant, je me rappelais juste de Wayne Gretzky qui était au Kings de Los Angeles, puis là, il dit « Oh, je m'en vais jouer avec les Rangers. »
Ouais.
Oh! Tu sais, alors que j'ai jamais connu avant qu'il jouait dans la bonne équipe avec les Oilers d'Edmonton. Il y a des choses comme ça que tu dis qui il a toujours été là. Je me rappelle telle année, oui, il était là avec moi. Il m'a toujours suivi.
Mm-hmm.
Puis il s'en va.
Ouais.
Comme un Sébastien Vettel qui annonce sa retraite, tu sais.
Oui. Ou bien justement, ben, tu vois, Vettel qui annonce qu'il s'en va chez Ferrari, ou Hamilton qui quitte McLaren pour aller chez Mercedes aussi.
Oui, il y a des symboles comme ça, il y a des points de repère, puis on est comme, OK, c'est un avant et un après. Là.
Ouais. Donc.
On comprend bien aussi pour Lewis Hamilton, c'est son dernier projet aussi.
Exact.
Parce qu'il ne va pas faire une autre équipe après.
Non. Non. C'est ça. C'est
Ferrari. Il ne va pas aller signer chez Audi en 2028.
Ah non, 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 hell no. Ou avec Andretti, si jamais ils acceptent.
C'est un truc comme ça, là.
Ouais.
Ça veut pas dire qu'il y a une autre équipe après, ça veut dire que c'est la dernière équipe.
Ouais. Et c'est ça, je pense que c'est mon
avis. Il le sait, hein.
Ouais.
Je pense que tout le monde le comprend, là. Il y a un peu de ça aussi, comme, OK, c'est la dernière phase de la carrière sportive de Lewis Hamilton.
Et justement...
Et donc, ça veut dire qu'on va pas l'entendre enfin, sa maudite musique qu'il nous promet depuis 20 ans.
Ouais, ben écoute, Charles Leclerc joue de la musique, fait qu'on a un duo musical.
On a un duo musical.
En 2025.
C'est vrai.
Mais, et juste avant de parler...
Pas le même genre, par contre. Hein?
Ah non, 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 non. Mais quoi que ça pourrait... Ça pourrait bien clasher. Je sais pas trop.
Non, c'est sûr.
Mais plus sérieusement, est-ce que... Et c'est mon ami François que vous avez probablement écouté, que vous avez écouté à quelques reprises dans le balado, qui faisait la comparaison... C'est comme Martin, est-ce que... Parce qu'on parle de Tom Brady avec les Bucks, mais il faisait penser aussi à Martin Brodeur...
quand il quittait New Jersey. Ouais.
Quand les Devils, avec pour aller signer avec les Blues de Saint-Louis. Parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi ce danger d'entacher son leg avec Mercedes si ça va très mal avec Ferrari? Parce que...
Évidemment. Évidemment. Mais non, on termine.
Mais parce qu'il y a aussi, pour certains gros pilotes, ça a mal terminé. Je pense qu'on avait même quelqu'un qui avait dit « Ah, Ferrari, c'est un cimetière de champions aussi. » Parce que tu as, par exemple, Alain Prost. Bon, il a quand même mérité.
Alain Prost est allé chercher un petit peu, il est un petit peu responsable de son malheur en disant que la voiture, c'est un camion.
Ouais. Et ça c'est comme c'est un crime envers Ferrari.
Oui, mais bon, Ferrari fait comme un propre crime en développant un VUS, mais bon, ça c'est une autre nouvelle.
Ouais, exact.
Oui, je comprends le point. C'est un peu mexicain, il est parti du Barça pour aller à Miami, mais c'est sa fin de carrière alors qu'il plante des palenques puis des trucs de dingue, il te fait des coups de pied arrêtés puis il marque des buts en MLS puis ça reste des buts de l'année et tout ce que tu veux. Bon. C'est sûr qu'il se prend ses zéros à prendre l'Arabie Saoudite en entrant à la 83e minute, là, comme le match qu'il y a eu, le match amical qu'il y a eu aujourd'hui. Mais oui, c'est des symboles comme ça qui sont plus hors nature.
Ouais.
On revient à ça, mais est-ce qu'il va heurter sa fin de carrière? Il est obligé de gagner des courses.
Ouais.
Déjà juste pour ça, il est obligé de gagner des courses.
Ouais.
Est-ce qu'il a besoin de gagner un championnat? Il a 39 ans, il y en a 7, il y a 104 victoires. Est-ce qu'il a besoin d'un championnat pour dire « ma carrière était bonne ». Il y a un moment donné où est-ce qu'on sait qu'on est sur le déclin.
Ouais. Je pense que, de toute façon...
Les fans de Lewis Hamilton vont me détester en disant ça, je le sais.
Écoute, si t'es encore sur Twitter, mets ton compte privé.
Oui, mais tu sais, il y a un moment donné où on est moins bon qu'avant, tu sais.
Ouais. C'est ça, je pense que c'est vraiment un moment charnière, mais de toute façon, qu'il soit à 7 ou à 8, on va se souvenir de Lewis Hamilton comme étant un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1.
Sport. De sa génération, clairement le meilleur.
Et de sa génération.
C'est difficile.
Ouais, ça, c'est pas compliqué non plus. Mais il faut. Parce que maintenant que Hamilton va partir, il y a. Un siège qui est maintenant disponible chez Mercedes.
Excuse-moi, Abdou, juste avant.
Oui.
Parce que là, on bascule sur la suite, mais je regarde le site de la Gazzetta dello Sport en Italie, puis on nous dit Hamilton est à son meilleur. Maintenant, c'est à Ferrari d'offrir une voiture à son Altesse.
Oh! Ah, écoute, c'est un sûr, anyway, alors.
Oui, déjà, mais là, on constate que Ferrari a tout. C'est le full package.
Ouais, maintenant à eux de.
Il y a un bon coéquipier, une bonne voiture, il y a un bon moteur, il y a une bonne infrastructure, puis on a le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1.
Donc.
On la sent la pression, là. Elle est maximale.
Exact. Donc.
Et puis un petit peu une touche d'ironie aussi, à son Altesse.
En plus, donc, j'aime la référence de la part de la Gazzetta. Donc, non, c'était très bien pensé. Et je me demande même. Parce qu'il va avoir peut-être il va avoir un successeur au sein, mais maintenant qui va prendre la place de Hamilton?
Il y a du choix. Hein?
Il y a du choix. Mais avant de commencer par peut-être un des plus évidents, il y en a qui on parle peut-être de Fernando Alonso. Est-ce que c'est quelque chose qui
il y a 42 ans?
Ouais.
43 cette année. C'est-à-dire 44 l'année prochaine?
Je pense qu'il a encore des belles années devant lui. Puis,
il y a des belles années à l'extérieur de la Formule 1, ça c'est sûr.
Et à l'extérieur aussi, il peut.
Est-ce qu'il a encore envie de faire l'Indianapolis 500?
Oui, il est. Moi, je sais, je pense que c'est encore dans ses plans, mais je pense qu'en premier lieu, il a envie quand même d'obtenir son fameux troisième titre avant de le faire. Parce que Aston Martin, présentement, n'est pas encore au point. Et pour le moment, je pense que les cartes sont là. Une partie des cartes sont là pour aider Alonso à aller au moins se battre pour la victoire. Pas maintenant, mais peut-être 2 ou 3 ans. Il a encore de belles années devant lui en Formule 1. Et je sais qu'Alonso, surtout avec la retraite de Nico Rosberg, surprise, était un des candidats au volant de Mercedes, mais on avait peur que Hamilton Alonso Part 2 fasse exactement la même chose que ce qui s'est passé entre Hamilton et Rosberg. Mais là, t'as George Russell qui va devenir maintenant le pilote d'appoint de Mercedes.
Oui.
Et t'as Alonso qui est capable de justement faire le travail. Donc, on aura un duo de pilotes similaire. Si Mercedes signale Alonso, on aurait un duo de pilotes similaire à ce qu'on a à Ferrari.
Ben regarde, faisons la liste des pilotes dont leur contrat se termine cette année, parce que c'est l'année folle dans le calendrier, là. Ouais. Avant même que McLaren signe Lando Norris, on savait que ça allait être une année folle parce qu'il y avait quoi, 15 pilotes des 20 qui devaient signer un nouveau contrat au terme de l'année. Donc ça, on le savait. Mm-hmm. Donc ça, on regarde vite qui reste là. Tu as nommé Alonso, oui, c'est un candidat potentiel, mais éliminons ceux qui n'ont sans doute aucune chance. Logan Sargeant.
On oublie ça.
Guan Yu Zhou.
On oublie ça.
On oublie ça parce que clairement, même Audi n'en veut pas pour 2026. Pareil pour Valtteri Bottas.
Qui a déjà été avec Mercedes, de toute façon.
Oui, donc on sait qu'il ne va pas y retourner. Nico Hülkenberg, c'est sans doute sa dernière saison en Formule 1.
Ouais.
Kevin Magnussen, c'est sans doute sa dernière année en Formule 1. Il coûte cher, hein?
Ouais.
Il coûte 5 millions pour Haas, alors que Nico Hülkenberg en coûte 1 million.
Mm-hmm.
Et il ne répond pas vraiment. Yuki Tsunoda... très gentil, mais non. Là, après, on tombe dans des candidats qui peuvent être intéressants. Daniel Ricciardo.
Je pense que lui, il veut vraiment le volant chez Red Bull.
Il veut vraiment le volant chez Red Bull. OK,
mais,
on passe.
Mais,
écoute... OK, passons. Ouais. Est-ce qu'on parle des deux Français, Ocon et Gasly?
Ocon connaît bien Mercedes.
Oui. Il a déjà été pilote Mercedes.
Oui. Gasly, je pense que... Je pense que ce qu'il a montré en 2023 me laisse dire qu'il pourrait être un solide coéquipier à George Russell. Je pense que...
Mais Mercedes aime ça avoir deux pilotes qui sont très bons. Il n'y a pas nécessairement de numéro 1 et numéro 2.
Ouais. Mais je pense que Russell est clairement au-dessus de Gasly.
Oui.
Mais Gasly, pour moi, sera un aussi bon fit.
Ocon, ça sera un retour à la maison. Ça oui. semble naturel. Mais après, est-ce qu'il est assez bon pour Mercedes? Il n'est pas mauvais, Ocon.
Non, vraiment pas. C'est un pilote qui est capable, qui est assez constant.
Ouais. Sergio Perez, je ne pense pas.
Non. Alex Albon.
Alex, voilà, lui, j'ai sauté volontairement. Est-ce qu'Alex Albon a un potentiel?
Je sais qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi si Sainz ne signait pas, il aurait été un candidat potentiel.
Dans la filière techniquement Mercedes, parce que Williams, le moteur, c'est un Mercedes.
Oui, et je ne sais pas si Williams voudrait le garder parce que je vois qu'il y a une prog... Il semble y avoir une progression,
puis il va sans doute demander plus d'argent aussi.
Exactement, et je pense que Mercedes a évidemment l'argent pour lui offrir le contrat qu'il souhaite.
Ils ont un encadrement aussi pour lui.
Et un encadrement en plus, et il connaît très bien George Russell, très bon ami.
Oui.
Donc...
oui, parce qu'on fait la Formule 3, Formule 2 ensemble.
Exact.
Et après, il reste un autre candidat. Celui qui se fait sortir.
Ouais, et c'est justement...
Est-ce que Carlos Sainz a ce qu'il faut pour aller là?
Ouais.
Moi, j'ai envie de te dire non.
Oh!
À cause de son père.
Audi?
Audi. Que conduit Carlos Sainz Senior?
Ouais. Et en plus, a remporté le Dakar.
Le Dakar avec Audi.
Avec Audi.
Ça veut dire que Sainz devrait conduire quelque part pour une année?
Ou
il irait chez Sauber au terme de 2025 en attendant Audi en 2026?
C'est ça aussi la grande question dans tout ça, parce que évidemment Sainz est le grand perdant de tout ce chamboulement.
Ouais.
Parce que quand même, moi je pense qu'il a fait un très bon travail avec Ferrari, dans le duo avec Leclerc, a été capable d'être présent, même s'il y a eu des moments où ça a été moins bien, mais pilote très intelligent, capable de communiquer stratégiquement avec ses ingénieurs aussi. Alors, ça, c'est un gros plus. Maintenant, qui va profiter de tout ça?
Ça sera Sébastien Vettel, directeur d'écurie de chez Audi.
Ouais. Hey, écoute, imagine le duo Vettel-Sainz chez Audi. Vettel va comprendre. Ouais, avec ce qu'on a vécu à Ferrari, je te comprends, mon petit Carlos. Mais ouais, pour vrai. Regarde,
comme coach, j'ai ton père aussi qui est représentant Audi aussi.
Et oui, aussi. Donc, ça aide beaucoup. Mais.
Mais plus sérieusement, il nous reste quoi comme candidat? On a évoqué quoi à peu près? Trois. Fernando Alonso.
Ouais.
Alex Albon.
Oui.
Quatre, en fait. Ocon.
Ocon. Ricardo.
Ricardo. Sainz.
Sainz. Peut-être. Est-ce que je peux en ajouter un sixième?
Sure.
Mais c'est
parce que là.
Peut-être un long shot.
Là, tu es une sorte de pilote de Formule 1 sur la grille?
Ouais.
Ah, voilà, c'est ça. Là, après, il faut aller voir qui en Formule 2, Formule 3. Et au pourchère?
Non.
Ça se rachète. Ça se rachète un contrat.
Ouais, ça se rachète, mais je ne pense pas que il irait chez Mercedes, parce que Mercedes a potentiellement le great deal. Andrea Kimi Antonelli, qui va faire ses débuts en Formule 2 cette année avec Prema, mais c'est un long shot.
C'est un pilote qui gagne le championnat.
Oui, et c'est un pilote qui est très talentueux. Déjà qui fait le saut de la Freca vers la Formule 2.
Donc, c'est la Formule 3.5 vers la Formule 2. Il saute une classe.
Oui. Donc, on déjà...
Hey, c'est beaucoup demandé, ça.
Et c'est un pilote qui est talentueux, qui a été excellent dans les catégories juniors. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va falloir surveiller. Je pense que maintenant que Hamilton est parti, je pense que il y aura beaucoup de gens qui vont regarder la saison de Antonelli, qui est âgé de 17 ans d'ailleurs. Et puis, de toute façon, Red Bull a essayé la même chose avec Max Verstappen en le faisant venir en Formule 1 très tôt, évidemment avec Toro Rosso avant de passer par Red Bull. McLaren a pris le pari d'amener Lewis Hamilton tout de suite après sa victoire en GP2, même s'il avait de 22 ans, mais les normes n'étaient pas les mêmes. Donc, je ne sais pas si Mercedes veut faire la même chose aussi, parce que Antonelli est un pilote super talentueux. Maintenant, est-ce qu'ils veulent le mettre tout de suite en Formule 1 pour... au moins le sécuriser ou bien le mettre avec Williams, je sais pas trop, ou avec une autre équipe.
Le signer chez Mercedes, je suis pas sûr, parce que ça fait pas partie de la mentalité Mercedes. Parce qu'oublie pas, après chaque Grand Prix, il y a des réunions à Stuttgart, puis on essaie d'évaluer qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien fait, quelle est la valeur de Mercedes après le Grand Prix, est-ce qu'elle est en hausse, est-ce qu'elle est en baisse, est-ce qu'elle est stable, comment on peut faire pour l'améliorer. Signer un poste ado à sa première saison en Formule 1, supposant qu'il y a assez de points pour y être dès 2025 et quelque chose qu'on puisse faire, c'est un très long shot.
Ouais.
Il faut qu'il ait les points, il faut qu'il soit bon.
Oui.
Mais comme bon, on s'entend là. Excellent.
Et en plus...
Dans le cas d'Oscar Piastri, là.
Ouais, ouais.
Ben, sauf que ça n'arrive pas toutes les années non plus.
C'est ça. Peut-être que Piastri va être un pilote générationnel aussi.
Oui. En tout cas, il a l'air. À sa première saison, il a l'air.
Oh, exactement. Et Antonelli pourra en être un aussi. Mais en plus, la Formule 2 va avoir une nouvelle génération de voitures aussi. Donc, ils ont déjà fait les tests la semaine passée. Alors...
Est-ce que Antonelli est un veau d'or?
Peut-être.
La saison?
Peut-être. On va voir. Parce que, évidemment, tu arrives avec... Là, maintenant, tu as le seul qui est parti. On beaucoup de gens le voient déjà comme la prochaine pépite d'or. Et même, justement... Et c'est ça aussi qui est intéressant. Tu parlais d'Oscar Piastri. McLaren aussi a pris le pari, sachant que Piastri est un très bon pilote, mais qui vient avec ses défauts déjà sa première année. Et c'est un diamant à polir.
Oui.
Donc, est-ce que...
Je ne veux pas dire que ça va bien tourner non plus, parce qu'on a souvent vu des pilotes qui font une très bonne première saison, puis après, c'est plus ça.
C'est ça. Donc, est-ce que Mercedes veut prendre ce pari de vivre avec le fait que Antonelli est un diamant à polir, ou il préfère attendre de le polir un peu dans les catégories juniors et ensuite de le faire venir en Formule 1, soit avec une autre écurie sur le plateau, ou avec Mercedes probablement quelques années plus tard.
Faut pas oublier aussi, et ça on l'a mentionné à plusieurs reprises dans le balado au cours de la dernière année, on sentait que c'est la fin d'un cycle chez Mercedes.
Ouais.
Il y a plusieurs têtes dirigeantes qui sont parties, des ingénieurs de pointe qui sont partis vers d'autres équipes, Red Bull, Ferrari, un peu ailleurs. James Walls est parti chez Williams, ouais, notamment. Donc, on sentait que c'était la fin d'un cycle. Et avec le départ d'Hamilton, c'en est un. Il faut reconstruire. George Russell va mener cette reconstruction.
Mm-hmm.
Le second pilote également. Ça prend une tête, ça prend un cerveau pour faire ça. Est-ce qu'un Antonelli est capable de le faire? Contrairement à toi, je ne suis pas certain. Est-ce que Carlos Sainz peut le faire?
Moi?
C'est un des gars les plus intelligents, je pense, oui, disponibles. Est-ce que Fernando Alonso peut le faire? Puis peut-être un peu vieux pour Mercedes.
Mais surtout, est-ce que Alonso pourrait être tenté? Parce que évidemment, je ne veux pas dire, mais ça va être une option à...
C'est une option à considérer. Ça va de soi.
À considérer.
Ou si après, ayant ce pilote-là, est-ce que tu peux attirer des gens pendant l'année pour commencer à piocher dès le mois de juillet sur 2025, 2026 and beyond pour développer des nouvelles voitures? Parce que ça prend du temps à porter ces nouvelles personnes-là pour... intégrer les idées, développer la voiture, ouais, faire la préparation. Dès le mois de juin, on commence déjà à préparer la prochaine voiture. Donc, il faut avoir quelqu'un qui a un pouvoir d'attractif, un aura qui va dire oh, je peux gagner avec lui, j'ai envie d'y aller. Est-ce qu'un Alex Albon peut amener ça?
Mm-hmm.
On pose la question, est-ce qu'un Carlos Sainz peut faire ça? Il faudrait qu'il en gagne 4, 5, 6 Grands Prix cette année. Il faudrait que ce soit un sérieux prétendant au titre, par exemple. Donc, il y a ça qui est à considérer. C'est intéressant pour Mercedes, ils ont le luxe du temps.
Mmh. Donc, moi, j'ai lu aussi l'article de The Race qui parle aussi des prétendants au siège de Hamilton pour 2025. Il classe ça comme l'alpha, donc Alonso, un équivalent à la Bottas, donc un genre de 1.5 pilote numéro 2, là où on pourrait mettre par exemple des Sainz, Albon, peut-être même Esteban Ocon, même si eux ils le mettent comme un genre de standard protégé avec Antonelli, ou bien même Mick Schumacher.
Ah oui, ok.
Donc, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Schumacher est pilote réserve pour...
Oui, il est troisième pilote, c'est vrai, on l'oubliait, lui.
Donc,
il est à considérer. Mercedes le sait. Ça, c'est facile, ça ne coûte rien. Ils le savent.
Ouais. Et eux, ils le connaissent.
Ils savent qu'est-ce qu'il vaut.
Exact. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va peut-être être intéressant à regarder. Donc, je pense que les options du côté de Mercedes ne sont pas illimitées. Mais il va falloir prendre une bonne décision pour voir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu prends un pilote à court terme, comme Alonso, et tu prépares peut-être un Antonelli, comme ça il arrive un peu plus mature pour la Formule 1, ou tu vas avec un, tu vas un peu à moyen terme avec des pilotes déjà établis, mais jeunes, ben, jeunes, comme des, bon, je sais que Sainz arrive à avoir 30 ans cette année, je crois.
Oui. Mais ça paraît pas avec la gueule qu'il a, on dirait des fois qu'il y a 40, là, mais.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est juste qu'il est poilu. Hein.
Ouais. J'ai une plus grosse barbe que lui.
Non, c'est pas difficile.
Ouais. Donc, tu vois, même Alex Albon aussi, qui, je pense qu'il a la mi-vingtaine, 27, 28 à peu près, donc encore bien des
années. Oui, il a la même âge que George Russell.
Donc, ça aussi, où tu vas vraiment vers faire un virage jeunesse. Donc, les options de Mercedes sont quand même larges, mais pas illimitées. Et
il y a plus qu'un choix sur la table, mais quand même, comme tu dis, oui, il faut choisir une direction, puis il faut choisir la bonne, puis c'est ça qui est difficile.
Ouais.
Parce que il se peut très bien que l'ensemble des directions soient placées sur la table soit mauvaise aussi.
Exactement aussi. Donc,
Parce que la convergence des axes fait en sorte que c'était avec Mercedes dans les années 2010, avec Lewis Hamilton, tout marchait.
Exactement. Donc, ça aussi.
Comme Carrier dans les années 2000. Williams dans les années 90, whatever.
Et McLaren dans les années 80.
Oui, c'est ça, get the picture.
Exactement. Et pour revenir avec Carlos Sainz, je vais finir un peu là-dessus. On a parlé, bah oui, il pourrait être une option pour Mercedes.
C'est une option pour plusieurs équipes.
Pour plusieurs équipes. Même Red Bull aussi, peut-être, parce que s'il y a un autre pilote qui va être vraiment scruté, c'est Sergio Perez, parce que son contrat se finit à la fin de cette saison.
Et clairement, il ne sera pas renouvelé. On peut sans doute gager de l'argent. Là, j'aimerais savoir le over-under à Vegas là-dessus, là, mais je pense que c'est mal parti pour lui, à moins qu'il décroche le championnat.
Mm-hmm. À moins qu'il je ne vais pas faire une référence à guerre, mais qu'il muscle son jeu. On salue Aimé Jacquet d'ailleurs.
Oui. Mais bon, il n'est pas Robert Pires non plus. Donc, à partir de là, il faut voir une autre option. Si Daniel Ricciardo voyait ce siège-là un peu pour lui à partir de 2025, Carlos Sainz devient intéressant parce qu'il connaît Red Bull.
Oui.
C'est pilote chez whatever, la deuxième équipe qui a envie de l'appeler. Je faisais votre nom, là. Ça, là.
Ouais.
Chez V-Carb. Connaît très bien Max Verstappen aussi. S'entendent relativement bien.
Oui.
Mais n'a pas pu vraiment bien résister à la pression à l'époque où il était chez cette entité, mais a grandi en maturité quand même, donc connaît, je pense qu'il saurait répondre. Ça ferait un bien meilleur coéquipier à Max Verstappen. Est-ce que c'est le meilleur coéquipier que Max Verstappen aurait eu en carrière? Il y a quand même eu Sébastien Vettel, donc c'est débattable, là, mais on s'entend que ça serait un bien meilleur coéquipier sans doute que Sergio Perez.
Ouais. Ça reste à voir, surtout la saison de Checo aussi. Mais oui. Moi, je vois.
Si elle est catastrophique comme cette année, c'est pas difficile.
Ouais.
Il y aura une sacrée compétition entre Daniel Ricciardo et Carlos Sainz.
Et même dans le communiqué de Sainz, il dit qu'il va dévoiler ses plans en temps et lieu. Donc,
pas de stress, hein?
Il n'y a pas de stress. Il y a déjà une saison.
Je pense que. Attendez-vous pas à entendre des signatures de pilotes demain ou la semaine prochaine ou dans un mois, dans deux mois, là.
Non. Parce qu'il
tout le monde va prendre son temps, là.
Et il y a une saison 2024 à disputer d'abord. On n'a même pas fait les premiers tours de roue.
On n'a même pas vu une première voiture. C'est demain la première voiture qui est présentée. Demain, Haas présente sa voiture.
C'est ça. Donc, on n'a pas encore
la saison est vierge.
Voilà, merci.
Pas pour V-Carb.
Ah, voilà. Ah, j'aime ça. V pour V-Carb. Désolé, Visa. Donc, ouais, exact. Donc,
on n'a pas pris ça.
Donc, je pense que c'est mieux de laisser la saison prendre son cours. Oui. Et ensuite...
Elle va se vivre, puis naturellement, on va commencer à avoir des signatures, mais ça ne sera pas... la période de signature est terminée.
Exactement.
Il n'y a rien d'autre.
Donc là, on va attendre ce qu'adviendra 2024. Et d'ailleurs, là, à moins qu'une autre grosse nouvelle sorte, et j'espère que non, là, on va se préparer pour la saison 2024 de Formule 1. Donc,
Parce que deux grosses nouvelles en deux jours, ça fera.
Ah ouais, et puis je vais pas vous le cacher. J'ai fait de l'insomnie en préparant le balado d'Andretti dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, j'ai besoin de repos. Et aussi, j'ai de gros projets pour le bulletin GP visuellement aussi. Donc, on se retrouve d'ailleurs là pour vrai, à moins que quelque chose d'autre éclate, le 28 février pour l'émission pré-saison du bulletin GP dans le cadre de la saison 2024.
Dans 4 semaines, dans moins de 4 semaines.
Exactement.
Et dans 3 semaines, parce que le balado sort vendredi, je suppose. On est vendredi?
Oui, on est vendredi, oui.
On est vendredi. Dans 3 semaines, c'est la saison, nouvelle saison de Drive to Survive.
En plus des essais privés.
En plus.
Donc là, on va avoir vraiment une vraie. On va avoir un premier avant-goût, en fait. Et c'est ça.
J'espère que Netflix a un nouvel épisode qui s'en vient, parce que juste avec ce qui s'est passé les 24 dernières heures. Hein.
Ouais, est-ce qu'on peut avoir un genre de épisode bonus, s'il vous plaît?
Oui, sans Will Buxton.
Ouais, sans Will Buxton.
J'aime bien, là, mais pas dans le Survivor.
Ouais. Et d'ailleurs, je pense à ça, on reviendra d'ailleurs sur la saison de Drive to Survive, et à un moment donné aussi, on fera notre revue de la série Full Speed de NASCAR, parce qu'elle est sortie aussi. Alors, si jamais vous avez aimé ça, vous pouvez nous le dire, puis on lira ça dans les prochains épisodes du bulletin GP.
Mais si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez nous le dire aussi. Hein.
Ah oui, aussi. Et puis
moi, j'ai vu le trailer, puis ça ne m'a pas donné envie de continuer.
Ah ouais? Oh! Ok. Ouais, moi, je pense que je vais juste m'abonner pour un mois pour binge-watch les 5 épisodes de Full Speed et ensuite...
Il y a 5 épisodes? Wow.
Ouais. Okay. Il y a 5 épisodes puis t'as 10 de Drive to Survive. Donc, c'est 15 épisodes de course automobile. Donc, c'est ce qui complète cet épisode podcast d'urgence number 2 du bulletin GP.
Donc, la saison est vraiment lancée. Ah hein.
Oui. Hein.
On pensait que juste Andretti hier c'était quelque chose. Non.
Lewis Hamilton et Ferrari ont dit bête.
Voyons.
Eh ben. Donc, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et autres, où le balado du bulletin GP est disponible. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads, @lebulletinGP. Et puis, évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace qui est sur Facebook.
En effervescence.
Ah, et en grande effervescence aussi. Donc, n'hésitez pas. Je pense que Julien et compagnie veulent atteindre le plateau des 5000 en 2024.
Wow!
Ils sont déjà à 4000, donc c'est quand même...
Oui, en route vers 5000.
En route vers 5000, assez facile pour 2024. Donc, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là.
C'est un vrai plaisir, j'ai très hâte à la nouvelle saison.
Ah oui, moi aussi, là. Donc, j'ai très hâte d'en parler et aussi de vous montrer des trucs visuels. Donc, c'est un secret. Oups.
Oh, ça m'intéresse, là.
Ouais.
J'ai envie d'être au balado de pré-saison.
Nice.
Soyez là aussi, on va s'humilier encore une fois en faisant des pronostics qui n'ont aucun sens.
Ouais. Et cette fois-ci, je vais, si je ne l'oublie pas, je vais essayer de vous le remettre en pleine face à la revue de l'année.
Oh non, moi je peux dire tout de suite, j'avais prédit que Pierre Gasly allait avoir un grand prix de suspension en raison du nombre de points de pénalité, il ne l'a jamais eu.
Ouais. Voilà. C'est ça. Shit happens.
Ouais, il y a 24 grands prix, je me dis tout le temps, il y en a un qui va l'avoir cette année. On est dû.
Mais pour l'instant, on est safe. Donc, ouais. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et on se retrouve, si tout va bien, le 28 février pour l'émission pré-saison du bulletin GP dans le cadre de la saison 2024 de Formule 1. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Portez-vous bien et on se retrouve à la fin du mois.